qu'est-ce que tu veux faire? Ce qui est important, c'est ce qu'on veut. Si tu dis, je veux faire ça, et si tu acceptes d'aller dans ce sens-là, eh ben, c'est ça aussi qui va venir à toi.
Un petit bruit buccal.
Rendez-nous les chips.
Subtilement dosé. Le chip est en danger.
Le chip.
Le chip.
Vous écoutez.
Le chip. Vous écoutez.
Le podcast afro d'Arte Radio.
Quoi? Comme.
Bonjour, bonsoir, vous écoutez Le Chip, je suis Kevin Donna et dans le studio d'Arte Radio, comme d'habitude, je suis en compagnie de Mélanie et de François.
Salut Kevin.
Salut.
Salut, salut. Cette semaine, on a un invité, Yann Gaël.
Hey.
Tu es venu parler avec nous de Marianne et le Garçon Noir, yeah. Ouvrage dirigé par Leonora Miano, mm-hmm. et qui aborde le sujet ô combien passionnant des masculinités noires. Donc on va en parler tout à l'heure. Puis Mélanie va aborder quelque chose qui nous travaille tous les trois, la relation entre la culture noire et l'Asie, plus spécifiquement la Corée du Sud et son hip-hop. Et sinon, quoi de neuf depuis la semaine dernière?
Moi, je reviens tout juste là de Toulouse. Genre, je suis sorti de la voiture, j'ai couru jusqu'au studio de Arte Radio. C'était assez épique. J'ai rencontré un chien raciste.
Un chien raciste?
N'importe quoi.
Donc voilà, François, tu combats le racisme à Toulouse?
Toujours.
Le racisme canin.
Ouais. Sur le trajet de Toulouse, on écoutait Niska et qu'on faisait Toulouse. Voilà. C'est la gueule là du genre.
Mélanie,
j'ai pas combattu le racisme, mais je vous ai fait une infidélité et j'ai lancé un autre podcast.
Eh ben, tu me vois ravie d'être cocu. Tu me vois ravie d'être cocu, Mélanie.
Donc, cet autre podcast s'appelle Quoi de Meuf. Il est adapté de la newsletter que j'anime du même nom avec ma collègue et amie Clémentine Gallo.
Oui, Clémentine.
Et donc, voilà, on a enregistré le premier épisode et il devrait sortir dans les jours à venir.
On te souhaite plein de succès, mais juste que tu sois derrière nous dans le classement iTunes. Faut arrêter d'être devant nous. Là. C'est pas. Ça n'a même pas encore commencé, déjà un numéro, je sais pas combien.
Ouais, c'est juste le teaser, boum.
Et toi, Yann Gaël, quoi de neuf?
Je reviens d'Italie, où j'ai tourné.
D'accord.
Voilà, un film qui va être beau. Mm-hmm. Je peux pas tellement en parler, parce que c'est un projet qui est assez énorme. J'ai un rôle tout à fait modeste à l'intérieur. C'est un film italien, d'un réalisateur italien. Donc c'est un film dont vous entendrez forcément parler, et yeah. Je ne peux pas en dire plus.
Le trashico.
Trash ou iconique?
Le trashico.
Le trashico.
Le passage obligé cette semaine, ça va être quand même la polémique Harvey Weinstein qui continue à se dérouler sur Internet et dans la vraie vie. Cette polémique qui a libéré la parole des femmes sur les réseaux, notamment Twitter, avec le hashtag Balance ton porc et MeToo. Où les femmes témoignent en fait d'agressions et de harcèlement sexuel qu'elles ont pu connaître tout au long de leur vie. Et du coup, les porcs, au dépit de certains grands hommes médiatiques comme Éric Zemmour ou je sais pas Alain Finkielkraut, ces porcs là commencent à tomber quoi et commencent à se faire renvoyer de leur job, de pouvoir. Moi, je voulais juste plus précisément me pencher sur le hashtag MeToo, qui semble, à première vue, avoir été lancé par l'actrice Alyssa Milano, qui est une ex de la série Charmed, qu'on a tous regardé. Hein. Allez pas mentir.
Et de Madame Servie.
Et de Madame Servie.
Who's the boss?
C'est laquelle déjà, Alyssa Milano? C'est celle qui arrête le temps?
Non, c'est celle qui voit dans le futur.
Ah ouais, d'accord.
Oui, non,
elle a un
précis.
Pouvoir pourri. Et du coup, comme souvent, malheureusement, une femme noire est derrière l'histoire, mais elle n'est pas créditée. En fait, le hashtag MeToo, il a été en réalité créé par une activiste afro-américaine du nom de Tarana Burke en 2007. Donc Twitter, c'était encore un bébé Twitter à l'époque. Et c'était quelque chose qu'elle avait créé à destination des femmes et des enfants issus des communautés défavorisées américaines. Donc elle avait un site qui s'appelle toujours Just Be. Et elle l'explique, le mouvement en fait, sur le site, il y a la page About. Donc en gros, c'est le receipt quoi, qui prouve qu'elle a créé ce truc bien avant. Et ce qu'elle explique sur son site, c'est que c'est un slogan à utiliser entre survivantes pour leur faire savoir qu'elles n'étaient pas seules et qu'un mouvement de guérison radicale était possible. Du coup, Alyssa Milano, elle a quand même souligné dans un tweet qu'elle avait appris l'existence de l'ancien MeToo, mais elle n'a pas cité Tarana Burke. Et 95% des médias qui reprennent en fait l'histoire du hashtag expliquent que c'est Alyssa Milano qui l'a lancé en fait, et ne font pas du tout leur travail. Et du coup, encore une fois, invisibilise complètement le travail d'une femme noire.
Après, Alyssa Milano, elle savait peut-être pas que...
Non, c'est ça, elle savait pas. Mais ouais. Après, elle a quand même fait un tweet en disant « Ah ben, on vient de m'apprendre qu'un mouvement existait. »
Elle a un petit peu donné le crédit quand même.
Voilà, c'est okay. ça. Mais bon, elle a pas cité le nom de la meuf, tu vois. Et je tiens juste à préciser vraiment que sur cette affaire Harvey Weinstein, il y a le féminisme blanc qui recommence à émerger. Il nous avait pas manqué, il revient. C'est ce moment-là où, en gros, t'as les féministes qui vont te sortir des trucs qui ignorent et invisibilisent complètement l'expérience des femmes noires, en l'occurrence. Donc, Rose McGowan, ex-Charmed, elle aussi, elle a ressorti le vieux John McLennanisme, j'aime bien l'appeler comme ça. Vous connaissez cette phrase « Women are the nigger of the world ». Ça vous dit quelque chose ?
Ah non, je...
C'est une phrase qui a été créée par John Lennon et Yoko Ono.
Les femmes sont les nègres du monde.
Exactement. En gros, pour expliquer que, putain, les injustices quand même, les femmes, c'est les nègres du monde. Donc, ça, pour le coup, il y a quand même des femmes qui sont noires. Hein, donc, voilà. Et
faut
du
choisir,
coup...
faut choisir, là.
En fait, elle a ressorti ça, elle a ressorti un extrait en disant « Regardez comment ils parlent des femmes, remplacé par le N-word. Et comment vous réagiriez ?» Et du coup, bah là, il y a toutes les femmes noires de Twitter qui lui ont dit « Écoute, non, c'est pas possible. On veut plus entendre ce truc. » Et du coup, elle a quand même effacé son tweet, mais seulement quand une femme blanche lui a dit « Écoute, c'est inacceptable d'avoir retweeté ça. »
Mais du coup, cette histoire, c'est trash ou iconique finalement pour toi ?
Pour moi, c'est iconique dans le sens où il y a des choses qui ressortent et je pense que les femmes noires, on les entend enfin dans ces affaires-là. Parce que justement, il y a quand même quelque chose qui est que les femmes noires... ont cette réputation d'être moins attirantes et du coup moins exposées aux envies des hommes.
Aux pulsions.
Aux pulsions. Alors qu'en plus, on sait très bien que le viol, c'est pas une pulsion d'amour ou d'envie sexuelle, c'est une pulsion de pouvoir. Mais bon, bref. Je voulais juste souligner aussi ce qui s'est passé avec Lupita Nyong'o parce que depuis sa résidence VIP Harvey Weinstein, hein, il attend que l'orage passe et il pense refaire sa carrière tranquille après. Et il n'a pas pris la parole durant tous ces témoignages, sauf quand Lupita Nyong'o, actrice noire oscarisée avec 12 Years a Slave, a pris la parole et a expliqué qu'elle aussi, il l'avait agressée sexuellement. Et là, par contre, il a fait un communiqué où il a dit « Ah non, non, jamais, jamais on pourrait me soupçonner d'avoir couché avec Lupita Nyong'o. »
Les autres peut-être,
oui,
mais elle non.
Mais elle non.
Non, j'ai une réputation, les gars.
Donc voilà, tout ça pour dire, on vous voit, tu vois, le féminisme blanc, le racisme, même dans cette histoire, on voit. Et le hashtag MeToo, ça appartient aussi aux femmes noires. Et les femmes noires ont aussi une voix. Elles ne seront pas effacées et invisibilisées cette fois-ci, ni par les hommes, ni par les femmes blanches. Voilà, iconique, Tarana Burke.
Je voulais juste rebondir microseconde sur ce que tu dis. J'ai été dans la position de l'homme ignorant, cliché, etc. Dans mon fil Facebook, je suis là, quoi ? Elle aussi, MeToo, elle dit ça aussi. Et j'étais vraiment genre, oh, j'aurais jamais pu penser que c'est arrivé à des gens que je connaissais aussi bien, qui m'en ont jamais parlé, qui m'ont jamais rien dit. Enfin, vraiment cette, ouais. cette position un peu. Et après, tu lis des articles et tu vois, les hommes, ils font semblant de pas savoir. Pardon.
J'arrête. Ouais. Ah, faut se dire qu'en fait, c'est plutôt l'exception, les femmes à qui il est jamais rien arrivé.
Moi aussi, j'ai un truc, sinon, bon, ce sera un peu plus léger, on va dire. Alors, il y a deux semaines, j'ai binge-watché la série Black Mirror. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous regardez.
Ouais.
Donc, la série de science-fiction qui montre un peu des futurs alternatives.
L'anticipation.
Dans cette anticipation sur les dérives possibles de la technologie. Donc, t'as des épisodes où les humains ont des espèces de lentilles qui leur permettent de se repasser l'intégralité de leur vie en film. T'as des épisodes où tu peux t'acheter un humain de synthèse pour du coup ressusciter un proche disparu, des trucs comme ça, c'est assez ouf. Moi j'ai trouvé ça génial, je suis un peu un gros fan de science-fiction et j'aime bien les trucs un peu dystopiques, un peu bresson, tu vois. Donc j'ai trouvé ça cool. Mais il y a un truc qui m'a un peu énervé, tu vois, sur les trois saisons, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'acteurs de couleur. Alors... C'est un truc qu'on peut, c'est une critique qu'on peut adresser à beaucoup de séries. Je conçois là, je suis pas en train de, j'arrive un peu après la bataille. La saison 4, elle vient d'être, elle va sortir bientôt. Moi, tout le monde l'a déjà vu. Moi, je suis un peu en mode, un peu en retard derrière. Mais il y a un truc quand même qui est spécifique à Black Mirror, c'est que chaque épisode est indépendant. Tous les épisodes sont indépendants.
C'est une anthologie.
C'est ça, c'est une anthologie, c'est une collection, ce sont des fragments, si on parlait littérature. Et du coup, ce qui est frustrant, c'est que finalement, chaque épisode est un recommencement, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu peux reprocher à Breaking Bad, par exemple, de ne pas avoir assez de Renoir, mais bon, c'est les mêmes personnages tout le long, donc c'est normal, au moment où tu ne veux pas les changer. Là, on a une série qui, à chaque fois, réexplore un
repart
nouveau...
à zéro.
Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, franchement, j'ai vu quoi ? Il y a deux, trois peut-être acteurs noirs. Bon, il y a Daniel Kaluuya, le mec de Get Out. Qui est très bon.
Fuck you for me, for us, for everyone, fuck you.
Alors, il y en a un ou deux autres. Je dis pas qu'il y en a pas. Je dis pas non plus qu'il y a pas un ou deux asiatiques qui traînent. Déjà, c'est une série britannique. Je vois aucun acteur d'ascendance indienne ou pakistanaise. Alors, ouais, il suffit alors de marcher 15 ouais, minutes dans l'ombre pour en voir partout. C'est évident, l'Empire britannique, on connaît. Donc déjà, les mecs, où est-ce qu'ils sont ? Même les figurants, ils sont pas là. Et donc, comme les épisodes sont indépendants, ce qui m'énerve, c'est que finalement, c'est comme si à chaque fois, les mecs t'avaient dit... Alors écoute, on a exploré une quinzaine, une vingtaine de futurs différents... Et dans aucun, vous êtes là. En fait, vous avez tout le temps perdu. Vous pouvez pas gagner, les mecs. Désolé, c'est comme ça. Et donc voilà, c'est assez frustrant. Pourquoi, en fait, dans le futur, c'est les gens qui vivent dans le futur, c'est toujours des blancs. Excusez-moi, mais,
non, mais...
vous avez vu l'affiche de Blade Runner. Vous avez vu, enfin, je sais pas, le cinquième élément. Enfin, bon, il y avait.
En fait, dans Blade Runner,
Chris Tucker.
Ils mettent l'Asie, tu vois, dans Blade Runner, mais ils mettent pas les Asiatiques. Enfin, c'est pas des personnages.
Non,
quoi,
tu vois ce que je veux dire, je sais pas. Même dans mes animés préférés, enfin partout, il y a jamais des Roms. C'est un peu énervant, voilà. Et j'ai envie de leur dire, mais les mecs, je suis pas d'accord. On peut faire autrement. Il y a des bêtes de dystopie à faire. Il y a des bêtes de fiction à faire super intéressantes sur le racisme. C'est comme si la SF ne savait pas penser en fait la question de la société et de la race.
Mais il me semble que c'est ça. Ça, on en revient toujours à qui c'est qui écrit.
Bah oui.
Qui c'est qui pense la chose et inévitablement bah, voilà, quand c'est pas ancré dans l'imaginaire des gens, ça va pas arriver comme ça tout d'un coup, à moins qu'il y ait des questions d'argent qui soient directement liées. Et ce qui est fantastique, c'est que maintenant avec les réseaux sociaux, avec surtout Twitter, les gens mais ils foncent dessus, quoi. Ils coupent le truc. Il y en a pas. Tu parles mal des gens. T'es pas bien placé sur ces questions-là. Ben, ça passe pas la rampe. Je veux dire, Ghost in the Shell, ça a été.
Ils se sont fait défoncer.
Voilà.
Mais ce qui est aussi hyper réjouissant, c'est que il y a plein de choses qui sont en train de naître dans la sci-fi. Mais du coup, des sci-fi qui sont écrites, créées par des non-blancs. Et qui sont hyper inclusives. Et ça demande aussi, je pense, de notre part, d'accepter de faire ce travail-là pour aller chercher ce qui nous correspond le plus.
Ouais, bien sûr.
Après, c'est vrai qu'on peut s'étonner que la science-fiction, qui est quand même le terrain de jeu de l'imagination, tu peux te dire, putain, mecs, ils n'ont pas pensé à ça.
Les mecs, ils arrivent à imaginer des jeux virtuels, un futur dans lequel les jeux virtuels sont ultra réalistes, etc. C'est une seconde réalité.
Mais ils ont cette œillère complète de la race.
Complètement.
Donc voilà, j'ai. Black Mirror, j'ai adoré. Du coup, la quatrième saison arrive vers la fin de l'année, donc j'ai vraiment super kiffé.
Cette fois, tu seras à l'heure.
Mais. Et pour finir, c'est à propos de Black Panther. Et du Kébranli. Alors, la semaine dernière, il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie pour promouvoir Black Panther, et ça fait des mois que j'attends.
Je peux vous poser une question ? Qu'est-ce que vous savez sur le Wakanda ?
Ça va sortir en février 2018, et du coup, la bande-annonce est magnifique. Ils ont la musique, c'est du Jill Scott Heron. Je ne sais pas si vous voyez...
Revolution will not be televised.
Exactement. Yes. Donc, lorsqu'il y a du Jill Scott Heron, en général, moi, je passe en mode « shut up and take my money ». Et du coup, tout le monde, il y a eu un gros emballement pour cette deuxième bande-annonce, et le Quai Branly a voulu...
join in the fun.
Voilà, a voulu un peu surfer sur la vague. Et en fait, ils ont eu un tweet, ils ont plusieurs tweets d'ailleurs, où ils disent...
un thread, en fait.
Voilà, un thread, où ils disent « tel accessoire, telle coiffe, tel tous les éléments que vous voyez dans la bande-annonce, eh bien, en fait, on les a dans nos collections permanentes, c'est super, venez nous voir. »
Ils l'ont recherché en Amérique du Sud, mais ils se trouvaient en Afrique depuis toujours.
Si vous savez que vous les avez, rendez-les maintenant.
Je voudrais juste vous lire deux tweets. Un qui dit... Allez vous faire foutre. Vous êtes bien culotté de parler d'un patrimoine que vous avez acquis par d'innombrables crimes, bande de pilleurs. Et le deuxième, c'est calmez-vous les colons, c'est super malaisant. Marre des toubabs, de leurs complices et de leur regard consumériste sur nos cultures. Bon. Effectivement, il y a une sorte de candeur en fait de la part du Quai Branly en disant bah, ça tombe bien, nous on a plein de trucs africains chez nous, venez voir. Et en fait, c'est toute une espèce de débat qu'il y a depuis des années, mais encore plus cette année en 2017, où pour la première fois, un pays africain, le Bénin, a demandé de tout rendre. Et la France a dit, en fait, oui, effectivement, on les a pillés, mais en fait, toutes les lois pour rendre ces biens qui ont été, on va dire, confisqués,
sont postérieures en fait à ces événements. Je crois que c'est de 1892. Et donc du coup, on peut pas vous les rendre, on les garde. Et ça me fait penser à... Bon, ça, c'est un phénomène mondial. Ça me fait penser, il y a quelques années, il y avait eu le même débat au Royaume-Uni pour les joyaux de la couronne de la reine d'Angleterre, où l'Inde est à la baie. En fait, c'est indien, est-ce qu'on peut l'avoir? Et en fait, la Grande-Bretagne a répondu, ben, en fait, pour le moment, on comprend que vous vouliez les récupérer, mais on les a. Et donc, du coup, on va pas vous les donner, puisqu'en fait, c'est nous qui les avons. Donc, à plus tard.
Est-ce que François Fillon a rendu l'argent? Je sais pas pourquoi.
Oh non, François, on repart pas sur François Fillon.
François rend l'argent.
Je vivais ma vie sans penser à lui, là. Dédicace. Tu peux pas faire ça, quoi.
Je ne t'ai pas oublié.
Je suis le seul à l'avoir vu. Et à en être ressorti vivant.
Si je peux me permettre. Moi, j'ai un iconique. J'en ai même plusieurs, mais j'ai plusieurs iconiques que. C'est y a plein de femmes noires qui font des choses exceptionnelles en ce moment. Je pense à deux d'entre elles, notamment. Un million de papillons noirs, vous en avez peut-être déjà parlé, donc, qui est un livre... voilà, qui est destiné...
La campagne Ulule de Mrs. Roots, c'est ça ?
Voilà, tout à fait, qui est donc écrit par Mrs. Roots.
On l'embrasse.
Oui, on lui envoie plein de bisous, plein de lumière, plein de force.
Plein de papillons.
Qui est très poétique, il y a une couverture qui est magnifique avec une petite fille noire avec sa belle chevelure. Et je pense aussi à Amandine Gay avec Ouvrir la voie. Donc voilà, bravo, plein de force, plein de lumière et que la suite soit encore plus belle.
Ok, eh ben, écoutez, on va passer peut-être du coup à ce qui t'amène ici avec nous, Yann.
Yeah.
Marianne et le garçon noir.
Tout à fait.
Donc d'abord, je vais peut-être commencer par te présenter, Yann. Donc tu es acteur, tu es né au Cameroun.
Tout à fait.
Tu as grandi dans le Finistère, tu as vécu également aux Ulysses, à Villiers-le-Bel.
T'es informé de ouf.
J'ai Wikipédia et Internet.
Ok.
T'es un peu un acteur tout-terrain, c'est quelque chose que je trouve très intéressant chez toi, parce que tu fais à la fois du théâtre, du cinéma, de la télévision. Tu as été formé au cours Florent et au Conservatoire National d'Art Dramatique.
Tout à fait.
Et donc, on t'a vu, par exemple, au cinéma dans l'Astragale de Brigitte Si, qui n'a rien à voir avec Omar, c'est
tout
bien ça,
fait.
Je précise. Tu as également interprété le clown Chocolat, mais avant l'interprétation de Omar Sy au cinéma, mais ça, tu l'as fait au théâtre dans une pièce de Marcel Bozonnet,
voilà.
C'est bien ça. On t'a vu également aux côtés de Gérard Darmon, dans une série qui s'appelle Duel au soleil.
Je fais pas ça pour ma carrière, mais pour t'empêcher de mettre un prédateur en liberté, tu le sais très bien.
Et mon personnel favori, je suis obligé de le dire, parce que du coup, ça, je l'ai vraiment appris en me renseignant sur toi. C'est toi qui joues Jimmy dans le clip Jimmy de Booba.
Tout à fait.
Oula,
classe.
Oula.
Bah désolé, moi, je suis...
Tu parles aux fans numéro 18 de Booba en France, donc...
Jimmy est arrivé en France croyant trouver liberté, égalité.
Mais c'est très drôle parce qu'il y a, beaucoup de gens, voilà, on parle, et parfois tu pars sur le rap, Booba, Jimmy, et ils te parlent du clip et tout ça. Et en fait, quand tu te dis aux gens c'est toi qui l'as fait, parce qu'en fait je suis dedans tout le clip.
Bah, t'es dedans, c'est
voilà,
ça, c'est
donc
c'est
les
pour
gens
ça,
savent
en fait.
Pas que c'est moi qui l'ai fait. Mais voilà, c'était cool.
Magnifique clip, pas meilleur son de Booba selon moi, mais magnifique, non, mais magnifique clip réalisé
on
par Greg.
On n'est pas dans le Mike et l'enclume.
Donc voilà, t'es un peu touche à tout comme ça. Et donc là, tu deviens écrivain le temps de cette contribution au livre de Leonora Milano, Marianne et le garçon noir, qui parle donc de la virilité et de la masculinité lorsqu'on est afro-descendant et qu'on vit en France.
Tout à fait.
Donc ta contribution, elle s'appelle Journal d'un garçon noir.
Voilà.
Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que tu parles de la manière dont à la fois ta virilité et ta couleur et ta nationalité, bien sûr, influe ton métier d'acteur.
Ouais, on peut dire ça. Je me suis demandé, quand elle me l'a proposé, déjà j'étais hyper flatté. J'étais en train de tourner le rêve français. Le rêve français, c'était vraiment un train, c'est un paquebot, c'est très dense. Du coup, j'avais pas le temps. Et quand j'ai terminé, elle m'a re-rappelé. Et là, je me suis rendu compte de ce qu'elle me proposait. Et je me suis dit, waouh, je ne peux pas ne pas écrire. Parce que... on essaye d'échanger des expériences, de se parler, de laisser des traces aussi pour nos enfants. Et ce qu'on te demande quand tu travailles dans la représentation, eh ben c'est ça, c'est chargé de tout ce que l'imaginaire des gens porte, projette sur les Noirs, sur le corps noir. Et on te demande des trucs de ouf, quoi.
Ouais, un des trucs qui m'a frappé, c'est que finalement, en gros, le livre parle beaucoup de la manière dont le corps noir et l'homme noir est souvent criminalisé aux yeux des autres, mmh. Dont il est également émasculé. Mmh. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, le jour où t'as décidé de devenir acteur, ben c'est un truc qui est lié directement à ça. T'étais à Villers-le-Bel. Mmh. Tu vivais à Villers-le-Bel à l'époque, juste après donc les événements, les fameuses violences urbaines de Villers-le-Bel.
Pendant.
Et tu dis donc dans une interview à Jeune Afrique que tu avais l'impression d'étouffer, quoi.
Ouais, mais en fait, c'est un moment, si tu veux, je commençais à rentrer sur le marché du travail, tu fais des stages, tout ça. Tu vois le regard que les gens portent sur toi, comment ils te considèrent, comment ils ne te considèrent pas. Tu vois dans la rue, tu marches, tu vois les femmes tenir leur sac, tu fais « Wow, c'est quoi ton problème ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai rien fait, j'ai rien contre toi. » Mais pourquoi ? C'est une violence de voir que les gens ont peur de toi. Et c'est une époque où je n'avais pas les mots pour traduire ce que je ressentais. Mais ça brûlait, je me disais, je ne peux pas, je me sens piégé. Je suis au début de ma vie et c'est comme si j'étais coincé. Et tout ça, il fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Parmi mes premiers amours, il y a le chant, j'ai la musique, c'est une chose qui est super importante pour moi. Je voulais travailler dans ce sens-là, voilà, j'avais commencé à faire de la musique, mais à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, il faut que tu puisses désamorcer. Et du coup, j'ai mis les pieds dans un cours de théâtre, au cours Florent, et là, ça a été, je me suis engouffré parce que j'ai senti que ma place, elle était là.
Et en même temps, tu racontes aussi la façon dont tu as pu parfois être un peu visé justement par les stéréotypes qui touchent les hommes noirs, l'hypersexualisation et trucs comme ça dans quand ce genre de métier. Quoi.
Quand tu es sur un plateau, même quand tu es en cours, c'est-à-dire que tu as tout le temps le regard de l'autre. En fait, le spectacle commence dès qu'il y a un autre pour te regarder. Donc directement, c'est impliqué l'imaginaire de l'autre. Dans quoi on te rêve, tes partenaires qui ont envie ou pas de travailler avec toi, dans quoi ils t'imaginent, qu'est-ce qu'ils ont envie de... Qu'est-ce qu'ils projettent sur toi ou qu'est-ce qu'ils ne projettent pas. Moi, j'ai passé beaucoup de temps de ma formation en bord de plateau à regarder les autres parce que les gens, je pense, ne rêvaient pas sur moi. Et c'était hyper frustrant parce que tu as des choses à partager, c'est comme ça que tu grandis aussi, mais que du coup, les autres... Bah, c'est comme si tu tendais la main et tu trouves personne. Donc tu te dis, waouh, c'est chaud. Et quand tu trouves quelqu'un, eh ben, soit on te fait jouer des trucs de ouf, soit on te dit, non, mais choisis ce que tu veux jouer. Quoi. Donc en fait, finalement, les gens qui connaissent le théâtre ne te disent jamais, regarde là. Parce que par rapport à qui tu es, qui tu peux être, ce que tu peux porter, eh ben, il va y avoir des échos. Ce qui t'aide à grandir plus vite, à trouver ta place parmi les autres. Fort heureusement, à un moment, il y a des gens sur ma route qui ont été fantastiques, bienveillants. Des gens, et je me dois de les citer, des gens comme Jean-Pierre Garnier, qui dirige la classe libre, du coup, du cours Florent. Des gens comme plus tard au conservatoire, comme Gérard de Sarthe, qui a été le Hamlet de Chéreau. Des gens comme Christine Farinck. Des gens qui m'ont vu et qui m'ont donné de l'amour, de la tendresse, de la place, de la considération.
Et qui sont allés finalement au-delà du masque.
Complètement. Quoi. Qui ont su et parfois jouer avec et aussi m'accompagner, m'aider à grandir.
François, tu disais que Yann était un peu acteur tout-terrain. C'est quelque chose que moi, j'ai trouvé en faisant des recherches sur un grand acteur français noir, Habib Benglia, du début du XXe siècle. Et apparemment, les rôles qu'on lui proposait au théâtre étaient moins stéréotypés que les rôles qu'on lui proposait au cinéma. Parce que le cinéma, c'est beaucoup plus grand public, c'est moins élitiste. Ça, c'était vrai peut-être dans les années 1920. Toi qui as touché aux deux, est-ce que tu penses que c'est vrai dans les années 2010 ?
Au jour d'aujourd'hui, je fais plus d'images que je ne fais de théâtre. Au théâtre, il y a plus de la place pour l'imaginaire. C'est-à-dire qu'à l'image, on vous montre, c'est la vision de quelqu'un. Au théâtre, on ouvre, on est dans une salle noire. Tu vois, on est tous plongés là, on est ensemble, on respire ensemble, voilà. Donc il y a plus de place pour l'imaginaire. Et là, les gens se permettent aussi plus de rêver. Malheureusement, il y a aussi des limitations. Il y a aussi les metteurs en scène, qui est-ce qu'ils font monter sur la scène ou pas. Voilà, donc on n'est pas totalement à l'abri de ça. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'on se dit oui, ça avance. Mais ce qu'on ne note pas, c'est qu'on recule par rapport à là où on était il y a 20-30 ans. Voilà, c'est un truc qu'il faut noter. C'est-à-dire que, en fait, on était beaucoup plus en avance que ce qu'on est maintenant. On a reculé, on fait un pas, on s'en félicite. Non, c'est plus compliqué que ça.
Ouais, d'accord. Donc, dans le texte, Et dans les autres extraits, parce que j'ai lu tout le bouquin, il y a souvent cette idée de la virilité et de la vérité noire, de surcroît, vue comme une sorte de carcan, tu sais, comme une sorte de... Je sais pas comment dire, de... Tu sais, de fardeau, un peu. Un truc dont il faut se détacher. L'homme noir, encore plus que l'homme blanc, on lui demande d'être fort, on lui demande de pas montrer ses émotions, on lui demande d'être, un Renoir solide, quoi, en fait. Et toi, dans ton texte, tu parles beaucoup d'utiliser ton métier d'acteur pour justement... explorer tes émotions, t'hésites pas à pleurer face caméra, t'hésites pas à déjouer en quelque sorte, les attentes. Donc, est-ce que pour toi, le métier d'acteur, ça t'aide à faire, ça t'aide à explorer et puis aussi à exploser en fait ta virilité, quoi.
T'as le pouvoir de désamorcer plein de choses pour toi, mais aussi pour les autres. C'est ça qu'on appelle la catharsis. Tu vois, tu sais purger les émotions. Donc, c'est une responsabilité que moi, dès le début, je me suis dit, est-ce que je vais là ou pas? Et en fait, ouais, parce que tous tes rôles, tu les explores, tu les rends complexes, tu vois. Si ton truc, il est juste d'un trait, ça n'a pas d'intérêt. Tu l'as vu une fois, ça y est, t'as compris, t'as pigé, tu passes à autre chose, c'est pas intéressant. Tu creuses et on a tous des failles, des fragilités, là d'où on vient, collectivement, on a des trucs, on est chargé, tu vois. En tant qu'acteur, t'as le droit, tu peux. Et je trouve, il y a une chose que je trouve belle dans le métier d'acteur, c'est les moments interdits. C'est que souvent, bah, la caméra est là pour te montrer un truc que tu verrais pas sinon. Un truc auquel t'as pas accès. C'est ce moment où tu vois au fond de la pupille, où tu vois que ça tremble.
Tu veux dire, quand toi tu te regardes après avoir été filmé à l'image, tu découvres des trucs sur toi, c'est ça?
Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la caméra, elle va te chercher. Ce qui intéresse, c'est justement ce que tu vois pas au premier regard. Tu vois?
Ouais, je vois.
Donc c'est que tu t'autorises aussi à avoir le genou qui fléchit, à machin truc, parce que c'est humain. C'est ça, être humain. Tu vois, personne n'est fait d'un bloc. D'ailleurs, je le dis dans le texte, tu vois, le stoïcisme, le machin, le mec qui est carré, qui est là, il n'y a rien. C'est Batman, c'est les années 40, ouais, mec. Batman. C'est les années 40. On est en 2017. C'est-à-dire qu'on a changé d'époque. Et je pense que pour être fort, eh ben, il faut pouvoir reconnaître que ben, là, tu sais quoi, là, c'est un peu dur, en fait. Et puis, déposer des fardeaux. Quand j'ai commencé à jouer, ça a été ça. C'était enlever les masques. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, ça m'appartient pas. Ça, c'est ma famille. Ça, c'est à mon père. Ça, c'est à ma mère. Ça, c'est pas moi. Parce que quand tu joues, il faut qu'on voit ce que tu donnes à voir, ce que tu présentes, ce qui est écrit. Et si t'as ton grand-père, t'as tout ça sur ta face, tout ça sur ton corps, on voit plus parce qu'il y a trop de choses. Donc, en même temps que moi, j'ai essayé de faire un taf pour déposer toutes ces bagages, toutes ces valises, ces fardeaux qui n'étaient pas les miens, ben, je me dis, je vais essayer de permettre aux autres de déposer aussi ce qui ne leur appartient pas.
Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, et c'est aussi une phrase qui m'a vraiment interpellée dans le texte, c'est, ça revient au même, en fait. C'est quand tu dis, avant, la bravoure, c'était de souffrir en silence et d'aller au-devant de la mort avant qu'elle ne vous trouve. Maintenant, c'est d'admettre ses émotions et de lutter pour sa survie. Nous avons changé d'époque. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que si on veut reconstruire ou même découvrir la masculinité noire, débarrassée en fait, de tous les regards posés par le colonialisme, le racisme, et si on veut nous-mêmes choisir ce que c'est, en fait, et la créer nous-mêmes. Mais je trouve que c'est à la fois intéressant et en même temps potentiellement révolutionnaire. En fait, ce que je veux dire, c'est que en tant que femme, je me dis, s'il y a une possibilité d'une autre masculinité qui soit pas nécessairement oppressive envers les femmes, parce que ce serait une masculinité qui serait connectée avec les sentiments, les émotions et l'acceptance, en fait, de ce qu'on est. Enfin, en fait, je suis hyper enthousiaste et je me dis, si on arrive, peut-être notre génération, peut-être les générations d'après, à construire d'autres modèles de masculinité noire, ça pourrait être vraiment cool, quoi. Et est-ce que tu penses qu'on peut y arriver? Enfin, quels sont les moyens pour y arriver?
C'est pas si on arrive, c'est qu'on va y arriver. C'est qu'on va y arriver. Parce que dans la société dans laquelle on est au jour d'aujourd'hui, c'est tu choisis si tu montes dans la barque ou si tu montes pas dans la barque. Si tu montes pas dans la barque, tu sais qu'on va dans le mur. C'est-à-dire que tu choisis qui tu veux être. Et nous qui faisons partie des minorités, ben, c'est une question de survie en fait. Mais c'est de là dont on part, c'est de là tout le hip-hop, c'est avec ça qu'on crée. On transforme, on ne fait que ça. de toute notre souffrance, toute notre charge, on lutte déjà pour notre survie. Et là, c'est aussi une question de survie parce qu'en fait, on a un endroit où les masculinités qu'on, voilà, qui sont noires, sont, qui sont le plus présentées, sont toxiques en fait. Mm. Pour nous-mêmes, hommes, mais aussi pour les femmes.
En fait, t'as pas 10 000 façons d'être un homme noir disponible, tu vois, dans ton espace mental. Moi, il y a une vanne du... Tu connais Farid, j'imagine, l'humoriste. Il y a une vanne qui me fait toujours marrer chez lui, c'est quand il dit « Non, mais quand t'es renoir, en fait, faut être soit musclé, soit stylé. » Ben, moi, comme je suis pas musclé, je suis stylé, tu vois. Et c'est ça le truc, j'ai l'impression.
Ouais, c'est inventer d'autres choses entre les deux.
Ouais. La virilité, la masculinité toxique, ça sert personne. Ça sert ni les hommes ni les femmes. Ben, pour moi, c'est une forme de prison et de carcan, en fait.
Tout à fait.
Et ben, la virilité noire, donc avec en plus tous les stéréotypes raciaux, l'hypersexualisation, les trucs comme ça, bah, c'est encore plus difficile de baisser le fardeau. Comme tu dis.
Et être libre, c'est-à-dire que deviens qui tu es, avec toute la créativité que ça suggère, parce qu'on a des tas de choses dans les mains, mais on a besoin d'être libre pour ça.
Par rapport au premier texte donc de Marianne et le garçon noir, écrit par Leonora Miano, donc qui dirige l'ouvrage, elle écrit, elle le dit aussi en interview, que ce propos qu'elle porte, de parler de la complexité, de la difficulté de la masculinité noire en France, de violences policières, etc., si elle avait été un homme, si ça avait été une initiative portée par un homme, elle n'aurait pas eu autant de... Je ne dis pas qu'elle a eu des facilités, mais elle n'aurait pas été aussi bien reçue dans les médias, etc., pour en parler. Est-ce que tu as un avis sur ça, sur le fait que un homme noir qui voudrait arriver et parler un peu de façon... sans chercher à tourner autour du pot, à vouloir parler d'oppression, de choses comme ça, est-ce que... Comment ce serait reçu? Est-ce que tu penses que ce serait difficile?
Oui, effectivement, parce que les discours des hommes noirs sont perçus comme... Les hommes noirs, déjà, sont perçus comme plus menaçants. Dès qu'il s'agit de pouvoir, etc., etc., une femme des minorités peut être perçue comme plus un objet, une chose un peu exotique, tu vois, voilà, dont un homme dont on peut supporter, accueillir la rébellion comme une chose un peu mignonne, tu vois. Tandis qu'un homme et un homme noir, c'est tout de suite une menace. Donc, on va tout de suite essayer de la rabaisser, de l'émasculer. Donc, effectivement, le discours des hommes noirs sont moins bien reçus, surtout quand ils sont politique, tu vois, parce que en fait on l'est tous dès que tu fais
politique.
Voilà, complètement. Donc oui, nos discours ne sont pas accueillis aux mêmes endroits, des mêmes manières, voilà.
Il y a cette idée intéressante que Miano développe non seulement dans l'intro du bouquin, mais aussi dans les interviews, qui est qu'en gros l'homme noir en France et dans beaucoup d'endroits en Occident est cantonné à une posture d'impuissance, en fait, et d'impouvoir. Et que c'est pour ça que, par exemple, en France, la plupart des ministres issus de la diversité sont des ministres femmes.
Il n'y a pas d'homme noir politique de premier plan.
Voilà, c'est ça. Moi, ce que tu considères, Harlem Désir.
Harlem Désir, sérieusement? je passe plus à la télé qu'Harlem Désir.
C'est pas un homme
qui est le pire, c'est que c'est putain.
Kevin.
C'est vrai.
Ça suffit.
Mais du coup, le noir est vu soit comme un chanteur, soit comme un rappeur. Soit comme
ouais,
un sportif,
c'est l'amuseur.
Soit comme
l'amuseur
public, soit comme un acteur.
Le mec du corps, tu vois. Ouais. Et en ça, c'est pour ça que je fais attention quand on te file un rôle. Voilà, comment est-ce qu'on fait agir, interagir ton
personnage? J'allais te poser la question, comment tu fais? Est-ce que t'as déjà reçu des propositions un peu foireuses? Et si c'est le cas, comment tu fais pour contourner un peu les trucs?
Bah ouais, bien sûr, si j'en ai reçu, ouais, je peux pas...
Pour manger plus, tu vois, donc tu peux pas te refuser.
Oui, mais alors là-dessus, moi je suis un peu d'un trait là-dessus, c'est-à-dire qu'on vous propose ce pourquoi vous dites oui. C'est-à-dire que si tu dis oui une fois, on va revenir vers toi avec des choses comme ça. Je pars du principe que qu'est-ce que tu veux faire? Ce qui est important, c'est ce qu'on veut. Et qu'on met une barre et qu'on attire aussi ce qu'on envoie à l'univers. Si tu dis « je veux faire ça », et si tu acceptes d'aller dans ce sens-là, eh ben, c'est ça aussi qui va venir à toi. Tu vois? On n'est pas obligé de dire oui. Tu n'es pas obligé d'aller faire un truc de ouf là, ou à montrer ton boule ou je ne sais pas quoi. Si tu trouves ça dévalorisant, si tu penses que ce n'est pas ce que tu veux faire, tu n'es pas obligé. Il faut avoir un message clair là-dessus et dire moi je fais ça, moi je fais pas ça, ça je fais pas. Et en fait, ce qui est beau, en tout cas, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'engage des conversations avec les gens avec qui je travaille. Tout n'est pas parfait, mais en fait, on s'assied et on se dit écoute, ça, j'ai un problème avec ça. Ou alors ça, on peut parler de ça différemment. Et si ce sont des gens intelligents, des gens aimants, des gens pleins de tendresse, eh ben les choses bougent. Et pour tout le monde, pour moi, je mets un peu d'eau dans mon vin. Parfois. Et eux aussi, on construit ensemble des choses qui sont plus riches, il me semble.
Qu'est-ce que tu penses des choix d'Omar Sy? Par exemple, est-ce que tu te verrais jouer samba?
Alors moi, on ne me le proposerait pas. On ne me le proposerait pas. Je pense qu'on le propose à Omar parce qu'il fait bien son taf, parce qu'il y a des gens qui l'aiment, qu'il a une chaleur auxquelles les gens répondent et qu'il faut ça. On est tous différents. Tu vois, et lui, il envoie ça au monde, à l'univers, et on l'accueille volontiers parce qu'il est très bien dans ce qu'il fait et c'est fabuleux. Il y a d'autres gens qui font d'autres choses. Et c'est pour ça aussi qu'on approche les gens, c'est parce qu'on veut quelque chose d'eux. Moi, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on me demanderait et je pense que ce n'est pas quelque chose que je saurais faire. Donc, c'est très bien que lui le fasse.
Ouais, et puis là, c'est pas l'autre, il y a plusieurs modèles de masculinité.
Complètement, complètement.
Ok. Écoute, je te remercie d'avoir répondu à ces petites questions.
Merci de me les avoir posées.
Tu voulais faire un big up aux gens justement qui sont dans le bouquin.
Yes, je voulais dire c'était une vraie belle aventure. Donc rappeler un peu le nom de tout le monde en disant que le bouquin il est dans les bacs. Donc allez le voir, achetez-le.
Il est magnifique.
Il est même dans les Kindle. Je l'ai acheté.
J'ai même pas eu le temps de dire tout le bien que je pense du livre, mais c'est vraiment une tuerie. Ça m'a touché.
L'intro de Léonora.
Tout est incroyable. Il y a des trucs. Moi-même, je me pose encore des questions. J'ai fini le bouquin il y a pas longtemps sur est-ce que je dois être un homme vrai ou un véritable homme. Tu sais, un des derniers textes. Enfin, c'est incroyable.
Ouais. Voilà, donc je cite juste tout le monde. Il y a Akwa Naru, il y a Hamzat Boukhari Yabara, il y a Ded Kabal, il y a Elom Vince, il y a Insa Sané, il y a Michaela Danger, il y a Nathalie Etoké, Wilfried Nsonde, et puis moi, votre serviteur. Yann Gaël et Léonora Miano, bien sûr.
Allez le chercher, allez l'acheter.
Offrez-le à Noël.
Yes.
Donc, pour le deuxième segment, on voulait parler de la pop culture coréenne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la pop culture coréenne, c'est aussi connu sous le nom de K-pop. C'est un secteur musical, mais aussi il y a des dramas. Donc, ce qu'on appelle drama, c'est des séries télé. Il y a des films et c'est toute une culture, en fait, qui touche l'Asie. C'est ça, il y a un gros rayonnement. La Corée du Sud a beaucoup dépensé dans les années 2000 pour qu'il y ait un rayonnement. Et dans les années 2010, ça s'est vraiment concrétisé. Alors moi, j'ai découvert la K-pop en 2010, donc il y a 7 ans, avec SNSD, donc Sonyeoshide, qui est un groupe de 9 filles qui font de la pop musique mignonne. Et du coup, ça, en tant que journaliste, ça m'a vachement intéressée parce que c'était tellement différent de ce qu'on connaît, nous, en Occident, avec la musique américaine et même la musique européenne. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis allée sur YouTube, il y avait 300 millions de vues sur toutes les vidéos. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Et donc, en fait, la K-pop, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce système d'idoles donc, qui sont formées dans des agences où elles sont formées à la musique, à la danse, au chant et aux relations publiques, donc à la télé, les interviews, pendant des années. Donc, elles peuvent arriver, elles ont 10 ans, et puis elles ressortent, elles ont 17 ans, et elles commencent leur vie dans le groupe, quoi.
Le centre de formation de footballeurs, quoi.
C'est un peu
c'est
ça.
C'est comme Ajax Amsterdam.
C'est un peu ça. Et c'est assez flippant, parce que ces boîtes-là, du coup, elles leur font signer des contrats sur 10 ans, et puis elles n'ont pas le droit d'avoir de petits copains. Enfin, il y a tout un truc, tout un monde insoupçonné. Je dirais qu'en France, la K-pop, ça a vraiment été connu en 2012 avec Gangnam Style de Psy.
Ah,
vous vous souvenez tous de ce grand moment musical. Il y a eu vraiment en fait, une poussée vers l'international entre 2008 et 2012. Et donc Gangnam Style, c'était la culmination, quoi. Et moi, j'étais vraiment, je me disais à ce moment-là, ça allait être le pivot. On allait voir ce que ça allait devenir, en fait. Et en fait, c'est retombé derrière, quoi. Donc, il y a des problèmes internes au système. Il y a aussi des hashtags balance ton gros porc là-dedans. Non, oui. Enfin, bon, c'est très compliqué. Et puis culturellement aussi, c'est complexe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au même moment, le genre, ça faisait déjà quand même quelques années, mais le genre s'est de plus en plus reposé sur la black culture et donc le hip-hop pour se renouveler. En fait, ce qui est intéressant avec la K-pop, contrairement à la J-pop, c'est que la J-pop, c'est un marché très insulaire. C'est le Japon donc, qui fait sa musique pour les Japonais. Et ça ne cherche pas du tout à s'exporter, à vendre des disques à l'extérieur, quoi. C'est vraiment pour les Japonais.
C'est
d'ailleurs,
marché interne.
Ouais, mais oui, parce que les Japonais achètent beaucoup de musique et ne piratent pas beaucoup. Mais du coup, effectivement, quand tu cherches des vidéos de J-pop sur YouTube, il n'y a rien. Parce que les Japonais, ils interdisent tout. C'est, voilà.
En revanche, des disques physiques, c'est ça.
Ils achètent des disques physiques. Ouais, c'est l'industrie, c'est la deuxième industrie musicale au monde, le Japon. Ouais. Voilà.
120 millions d'habitants, 130 millions d'habitants, c'est
ça. Dès que tu achètes un album, je ne sais pas si tu vois, mais quand tu t'échanges.
Japanese Edition,
albums,
non?
Exactement, ouais. T'as une Japanese Edition.
Ouais.
C'est pour
ouais.
ça.
Tu peux vraiment faire du gros business si t'es bien connu au Japon, quoi. En revanche, la K-pop, c'est un mouvement qui cherche vraiment à s'étendre, à toucher la Chine, le Japon,
l'Europe,
les États-Unis avec la communauté asiatique américaine. Ce qui est intéressant avec le hip-hop coréen, c'est que c'est un peu, on adore la culture hip-hop. On adore les gros mots, on adore le swag, on adore comment ils s'habillent et on adore le style. Mais comme Paul Mounet le dit si bien, everybody wanna act black, but don't nobody wanna be black. Quoi.
Tout le monde veut jouer les renois, mais personne ne veut être renois. Quoi.
Exactement.
Et prendre ce qui va avec.
Exactement. Dans la K-pop, toutes les chansons ont un passage rap par défaut. Même les chansons avec des petites filles mignonnes en jupe, il y a un passage rap. À un moment, il y en a une qui arrive et qui fait nanana. Donc voilà, c'est vraiment intégré au modèle, en fait. Sinon, il y a quelques collaborations aussi qui montrent à quel point la K-pop a voulu aller vers le hip-hop. Donc, un groupe de filles qui s'appelle Tiara a fait une collab avec Chris Brown. Il y a une chanteuse qui fait partie de SNSD qui a fait une carrière toute seule, solo derrière, qui a fait un duo avec Wiz Khalifa. Il y a eu aussi un télécrochet qui s'appelle Show Me The Money, ou qui est l'équivalent de Star Academy, mais avec que des rappeurs et des rappeuses. Et là où il y a eu à la fois des groupes d'idoles et des vrais rappeurs qui sont venus faire leur chant. De cette émission, ils ont fait une version féminine qui s'appelle Unpretty Rap Star. Et de Unpretty Rap Star est sortie la grande Jessie, donc qui est, c'était en 2015. Et là, cette année, c'est vraiment Jessie, c'est la rappeuse à la mode en ce moment en Corée.
Ça fait très rap un peu des années 2000 aux States, en fait, rap un peu bubblegum.
Il
ouais.
Y a ce côté ouais, un peu festif aussi. Un peu,
ouais. Mais alors ça, c'est une des caractéristiques de la K-pop, c'est quand t'écoutes les trucs, même les trucs que tu dis putain, ça pourrait être cool et tout, t'as l'impression que c'est déjà entendu et t'as l'impression que c'est arrivé 10 ans avant aux États-Unis.
Ouais.
C'est parce qu'en fait, ils sont tournés vers des trucs qui réadaptent à leur sauce. Mais forcément, ils s'inspirent de trucs, tu vois, des années 2000, fin 2000.
En plus, lorsque nous, on a un regard sur la pop culture américaine et qu'on voit des Katy Perry, des Taylor Swift, on trouve déjà que c'est un peu des trucs qui sont déjà repompés d'une black culture et que finalement, la pop culture américaine contemporaine, c'est un peu du R&B blanc. Donc lorsqu'on a des Coréens qui arrivent par-dessus, qui copient Katy Perry...
ça fait beaucoup de remâchage. Sinon, là, je pense que ça va faire plaisir à François. Je voulais évoquer le hit viral de 2015 de Keith Ape.
Ujima !
Ujima !
Ujima ! C'est le mec qui a pompé Ujimako. On est d'accord, qui a pompé Ubi Shugestis et Ujimasko.
Et effectivement, ce clip, alors moi, j'en avais entendu parler à l'époque, je n'avais pas cliqué parce que voilà. Et j'ai vu, il y a 50 millions de vues sur YouTube.
Ah, mais c'est un méga tube, mais c'est pas un mauvais morceau.
Alors par contre, c'est vrai que ça fait bizarre de les voir dans leur appart en train de s'énerver avec des espèces de trucs qui sautent sur l'écran. Enfin, tu vois, c'est surprenant.
C'est dans la BO de la série Atlanta.
Tu parles beaucoup de black culture dans le rap coréen. Est-ce qu'il y a des renois, du coup, qui font de la musique là-bas?
C'est quelque chose que je voulais aborder. Je voulais juste terminer sur le fait que ça continue, en fait. Le hip-hop, en fait, est un truc qui vend beaucoup. Donc, par exemple, en 2017, création des Korean Hip-Hop Awards, avec best featuring, best chanson rap de l'année, enfin voilà. Et il faut aussi signaler que Jay Park, qui est un ex-membre d'un groupe, d'un boy group, hein, donc vraiment le truc où il dansait, où il craquait la chemise et
One
tout,
Direction,
a été signé sur Rock Nation, le label de Jay-Z, l'année dernière. Donc, et il a lui-même dit que c'était un grand pas pour les Asiatiques américains et qui voulait. Il a quitté le groupe depuis très longtemps, hein, mais voilà. Pour rebondir sur ce que tu disais, François, est-ce qu'il y a des chanteurs noirs en Corée du Sud? La réponse est oui. Le problème, c'est qu'ils sont très fortement discriminés. Parce qu'en fait, il y a plusieurs problèmes qui découlent de cette espèce de fascination pour la culture noire, pour ses apparats, sans intégrer les personnes. C'est-à-dire qu'il y a un problème de discrimination des Noirs sur le marché asiatique. Il y a des problèmes d'appropriation culturelle, problèmes de blackface, et même des problèmes de comparaison des Noirs avec des animaux. Pour la discrimination, donc, il y a une chanteuse qui s'appelle Michelle Lee. Sa mère est coréenne, son père est afro-américain. On l'appelle la coréenne Missy Elliott.
Wow.
Voilà. Elle a participé, elle aussi, à Inté Crochet. Elle a été signée par YG, donc vraiment l'agence...
Mais pardon, c'est-à-dire que son style a quelque chose à voir avec Missy Elliott ou c'est juste parce qu'elle est noire?
Non, mais ouais, c'est...
Enfin,
ça dépend. Pff, non, son style n'a pas vraiment grand-chose à voir avec Missy Elliott, okay. Mais effectivement, elle est noire et elle est un peu forte. Elle a été donc signée par l'agence YG. Ils ne ont même pas sorti son disque et ils l'ont viré, quoi. Parce qu'il y avait énormément de commentaires et puis elle a été même discriminée au sein de l'industrie, quoi. Et elle a fait un clip derrière. Elle a quand même sorti une chanson qui s'appelle Without You, où elle écrit, en fait, il y a une petite fille noire qui écrit des insultes racistes sur un mur et qui pleure, en fait, parce que c'est tous les trucs qu'on lui a dit, quoi.
Et c'est en fait là où la lutte, comment est-ce que ressurgit dans l'art, que ça devient de la création et qu'on recolle, en fait.
C'est une bonne transition sur l'appropriation culturelle. Parce qu'en fait, effectivement, eux-mêmes, les rappeurs, dans les interviews, ils disent que ce qu'ils aiment, c'est cet esprit contestataire, sachant que les sociétés asiatiques, il y a un très fort respect des hiérarchies, c'est très compliqué, tu vois, pour vraiment s'exprimer et faire ce qu'on veut dans la vie. Et du coup, les rappeurs, ils imitent le style vestimentaire, mais aussi les attitudes, les expressions. Et des fois, ça vire même à la parodie, quoi. Et l'authenticité, qui est une des clés du hip-hop, est complètement perdue dans le truc, quoi.
Ils reprennent l'esthétique, les trucs, mais sans la substance.
Même quand c'est bien fait, en fait, ça reste de la parodie.
Mais tout à fait. Et il y a même un des rappeurs de Big Bang, qui est un des plus grands groupes de K-pop, quoi, qui a dit « Je ne suis pas noir, donc je dois souffrir encore plus pour comprendre et atteindre la vraie douleur des Afro-Américains. » En gros, c'est comme ça qu'ils réfléchissent.
Non, en fait, il faut juste... en fait, si je peux me permettre, en écoutant et en prenant en compte, ça marche aussi bien.
Bah oui.
Voilà, c'est pas de se mettre soi au centre, en fait. Et ça, c'est un réel problème. Non, c'est en laissant la place aussi à l'autre, en laissant à l'autre ce qui lui appartient. Il me semble qu'on le respecte et on n'a pas besoin de revêtir les habits d'eux pour être en empathie. C'est pas parce qu'on apprécie quelque chose qu'il faut qu'il soit à nous, en fait.
Ouais, c'est bien. Et surtout faire de l'argent dessus, alors que ces mecs-là, à côté de ça, ils ont fait des blackface. Enfin, c'est des gens qui te disent ouais, la douleur des Noirs, le talent des Noirs, la musique, le hip-hop, c'est génial et tout. Et à côté de ça, ils n'ont aucun respect pour la vraie expérience noire, quoi. Ce que je pense, c'est que la souffrance infligée aux Noirs à travers l'histoire, c'est pas une école de musique, quoi. C'est pas là où on apprend à faire ses gammes. Et je voulais juste aussi parler de Nega, qui veut dire jeu en coréen, et donc qui à l'oreille ressemble aussi au mot
en haine.
Au mot en haine, et du coup, beaucoup de rappeurs l'utilisent dans ce sens-là. Ils n'arrêtent pas de faire des chansons, ils font Nea!
Ils jouent sur la sémantique.
Voilà, et ils plaident l'innocence quand on leur pose la question. Ils font ah, mais non, je voulais vraiment dire le mot jeu. Enfin, donc, être fan de pop culture coréenne quand t'es noir, c'est un peu. C'est dur, quoi. Enfin, faut arriver à gérer. Dans énormément d'émissions comiques, souvent ils imitent des chanteurs. Et par exemple, souvent, ils imitent Stevie Wonder, ils mettent des lunettes et ils font de la blackface, quoi. Donc, c'est complètement inspiré par les minstrel shows américains et c'est complètement pour dénigrer et se moquer des Noirs. Gigi, qui fait partie du même groupe, Big Bang, s'est déguisé en Trayvon Martin pour Halloween.
Oh. Ah ouais, c'est de bon goût, ça.
Avec le hoodie, peint le visage en noir. Et Taeyang, donc le même mec qui disait qu'il avait envie de souffrir comme un noir, pour l'année du singe.
Oh, putain, ça commence mal.
Say
no more. Arrête-toi là.
Il a utilisé un filtre Instagram et il s'est mélangé sa tête avec celle de Kanye West et il a dit ouais, joyeuse année du singe, tout le monde.
Putain, entre les filtres Kanye West et les filtres, il y avait le filtre Bob Marley sur Snapchat, les mecs ils s'arrêtent jamais, quoi.
Ah, mais ils craquent leur cycle.
Okay. Je leur recommande la lecture de Marianne et le garçon noir.
Voilà, voilà.
Les recommandations du chip.
Alors, je garde la main et je vais vous parler de l'Instagram d'Ava DuVernay, réalisatrice américaine, afro-américaine, qui a entre autres réalisé Selma et The 13th. Et donc, si tu veux savoir comment vit le Black Hollywood, si tu veux être tous les jours avoir Oprah qui te parle comme si t'étais sa pote, apprendre des astuces de mise en scène, être dans les studios, voir comment ça se passe, les rendez-vous avec les chefs, croiser Tessa Thompson, Hannibal Buress. Enfin, en fait, si tu veux vivre ta vie idéale, va sur l'Instagram d'Ava DuVernay. Et puis,
tu m'as eu à Tessa Thompson.
Elle fait même des behind the scenes de son film qui va bientôt sortir, qui s'appelle Wrinkle in Time. Je l'ai mal dit, mais bon.
Non, tu l'as très bien dit.
Une ride sur le temps. Ouais. Je pense pas que ce sera la vraie traduction. Oh,
ça pourra au Québec. Au Québec.
Donc voilà, Ava, c'est mon rôle modèle. Je l'aime et vous l'aimerez aussi si vous la suivez sur Instagram.
Moi, en recommandation, j'ai une expo qui vient de commencer, qui a commencé le 18 octobre, qui s'appelle Dada Africa, qui se tient au musée de l'Orangerie à Paris, qui montre le lien entre ce qu'on appelait les arts nègres à l'époque. Et la naissance du mouvement Dada en Suisse, à Zurich, au milieu de la guerre, ambiance Verdun en Europe. Et en Suisse, il y a des artistes de talent un peu fous dans un environnement très cosmopolite qui décident de s'inspirer, de s'emparer, de s'approprier.
Hashtag ébranlé, excuse-moi.
on en revient, mais c'est à la mode en ce moment. Il y a des choses effectivement qui sont peut-être problématiques, mais je pense qu'une exposition comme ça, l'Orangerie, c'est le lieu parfait. Je recommande, c'est hyper intéressant et ça montre aussi à quel point, pendant la Première Guerre mondiale, les artistes craignaient en fait cette espèce d'industrialisation du mode occidental, du monde occidental, et voyaient de façon un peu naïve et condescendante à certains moments, mais pas non plus complètement dans la dérision. Les mecs sont pas dans le blackface ou dans les trucs comme ça. L'art venu d'ailleurs comme une façon de se régénérer, de trouver de nouvelles sources d'inspiration.
Art primitif aussi, c'est aussi comme ça qu'ils les appellent.
Voilà, ça c'était pour moi. Okay. Dada Africa, exposition intéressante sur les relations entre les Européens et l'art africain.
Superbe. Ben moi, je me sens super con parce que ma recommandation...
C'est quoi, François?
C'est l'album... C'est l'album Wakamoon de Kalash, donc bon, ça va. Ça va voler moins haut, mais désolé, je kiffe la...
Moi, je valide.
Mais voilà, il n'y a pas longtemps...
Qu'est-ce que tu préfères dans l'album pour l'instant?
J'ai une immense... je suis assez monomaniaque en musique, ouais. Et là, en ce moment, c'est Y'en a v'là.
Ouais. Trois fois plus de Barbie que de Jambi dans ma vie. On s'en sort mal tout ça.
Les portes fermées, faire du sale, faire le soir. C'est assez.
Ouais, et il en place une pour Théo et Adama.
Frisson dans les chines.
Mais ça fait du bien quand les artistes sont engagés sans. Qu'ils ne se cachent pas derrière quoi que ce soit et qu'ils se servent de leur tribune pour parler de toutes ces choses qui nous secouent tous ensemble.
Allez le voir, si vous êtes à Paris, allez le voir en concert.
21 décembre.
C'est ça, le 21 décembre au Zénith. J'imagine qu'après, il fera une tournée en France de toute manière. Donc, allez le voir tout court en concert. Et puis, imaginez le gros frisson quand vous aurez toute la salle reprendre Justice pour Théo et Adama. Ce sera trop stylé. Moi, j'y serai.
Je me permets de me glisser dans les recommandations.
Vas-y, glisse-toi.
Je m'introduis, si vous me permettez. Je pense à l'expo de Rokhaya Diallo, qui est à la Afro. Maison des Métallos, Afro. Voilà, allez-y. Elle parle du cheveu, voilà, de nos cheveux. Donc c'est beau, les photos sont belles et les gens surtout qu'elle présente sont des vraies personnes de talent qui font des choses de ouf. Donc voilà, chapeau bas à elle et puis aux gens qu'elle présente. Une autre.
Another one.
C'est Black Square qui est un média qui est sur les réseaux sociaux, qui est tenu par une femme de talent qui s'appelle Marina Wilson.
On la connaît.
Mais de ouf. Donc allez voir, elle présente des gens. C'est plein d'humour, c'est frais, les gens ils sont pleins de talent, ils font des choses de ouf et vous découvrez des noirs qui font des choses de ouf à travers le monde. Donc allez lui donner de la force et allez en même temps prendre toute cette inspiration et cette beauté que vous voyez sur ce qu'est Partage. Et encore une, c'est Fresh Woman.
Fresh Woman
de l'Afro, tout à fait, où justement vous découvrez plein de femmes qui font des choses de ouf,
dont
Marina Wilson. Il y en a plein d'autres, pardon, j'oublie les noms, je les connais pas toutes, mais allez voir ça sur les réseaux sociaux, sur Twitter, machin truc. Et en plus, l'Afro, ils font un taf que c'est qu'ils font découvrir des gens. Je me souviens de leur rubrique Un acteur un jour. On dit souvent que il y a pas d'acteur afro, d'acteur, d'actrice afro, et ils nous font découvrir une palette de gens qui sont pleins de talent. Et souvent, je me permets, comme je suis au mic, je me permets de le dire aux gens et aux journalistes. S'il vous plaît aux journalistes afro, s'il vous plaît, faites votre taf. Allez à la rencontre, et je parle là des comédiens, des comédiennes, parce qu'il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai un peu de lumière et je me sens très, très chanceux. Faites vos devoirs, rencontrez-les. Ils sont là et ils sont pleins de générosité. Voilà, donc plein de lumière et plein de force à toutes ces gens-là, à toutes ces femmes, à toutes voilà, ces gens qui font des choses fantastiques.
Wow. Le message est passé. Lumière.
Moi, je bosse pour mes recommandations. Yann, trois recommandations de ouf comme ça. Oui, et puis il y a machin. Non, mais voilà. Et puis évidemment, des femmes noires qui font des trucs. On en revient à ce.
Les femmes noires vont femmes noires sauver le monde, comme ce qui est écrit dans le livre.
Au moins la France. Au moins la France. Et voilà, c'est fini, c'était le Chip, on revient dans 15 jours. En attendant, abonnez-vous à notre tout nouveau flux RSS sur iTunes qui s'appelle
Le Chip.
Le Chip, évidemment. mettez-nous des étoiles, 1, 2, 3, 4,
5,
5,
le max direct.
Moi, allez là.
Je me lève pas à moins de 5 étoiles.
moi, j'en profite pour vous dire merci pour votre accueil chaleureux.
Merci à toi,
merci à vous d'être là et de voilà, partager autant de lumière.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @lechippodcast sur Twitter et sur Instagram. Cette émission a été réalisée avec de l'amour par Samuel Hirsch. On te fait des bisous. Yeah. Oh, il est là. Et puis, restez frais, on vous fait des bécos et on vous voit dans 14 jours.
Salut.
Bisous.
Salut.
Bye bye.